Elbakin.net, le podcast. Actualité, débat, auteur, série. L'émission du site de référence de la fantasy francophone.
Salut à tous et bienvenue pour ce 92e épisode du podcast d'Elbakin.net. Et qui dit nouvelle année, alors déjà très bonne année à vous, chers auditeurs du podcast, mais dit également podcast bilan de l'année écoulée, donc bilan de l'année 2022, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui autour de cette table. Alors je suis entouré de Saffron.
Bonsoir tout le monde et bonne année.
D'Acalabès.
Salut tout le monde, bonne année à vous.
De Gilosen.
Meilleurs vœux, bonsoir.
Et je suis Giggs, toujours pour vous servir. Alors qu'avons-nous lu, qu'avons-nous vu, à quoi avons-nous joué, qu'avons-nous entendu? Stay tuned, on vous embarque avec nous pour cette petite rétrospective de l'année 2022. Et je vous rappelle, avant de commencer, que si vous souhaitez soutenir notre podcast, si vous souhaitez soutenir les émissions d'Elbakin.net, mais également son site internet, vous pouvez faire un don sur la plateforme Allo Asso que vous retrouverez sur la page d'accueil du site. On va attaquer avec les livres, une fois n'est pas coutume, donc ça va être un classement par éditeur et par éditeur par ordre alphabétique. Donc bien évidemment, le premier dans la liste, c'est Actes Sud. Et Actes Sud, qu'est-ce qui est paru chez Actes Sud cette année?
Eh bien, il y a eu notamment Gideon la 9e qui a quand même été nominé au prix Elbakin.net, et pas seulement nominé, d'ailleurs il l'a gagné, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc, une très bonne lecture en ce qui me concerne. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, parce que quand tu lis le résumé du bouquin, c'est quand même relativement spécial. Bon, le bouquin est relativement spécial aussi. C'est quelque part entre la fantasy, la SF, le thriller, le roman policier. Ça ressemble à rien de connu. Les personnages sont hyper attachants. L'ambiance est totalement dingue. Ouais, non, mais si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Parce que ce bouquin m'a bluffé. Et ouais, j'ai vraiment adoré.
Si on devait le résumer, hein, pour les personnes qui ne l'ont pas lu, hein, Gideon la 9e, il me semble que ce sont des nécromanciennes lesbiennes qui s'en prennent à un château, qui font le... Non, c'est pas le siège d'un château.
C'est pas le siège, c'est elles sont invitées dans un château avec toutes les autres maisons qui en fait sont les leaders du système planétaire. Et donc chaque maison appartient en fait à une planète différente. Donc elles, c'est les 9e, donc la 9e de la 9e planète. Et là où elles sont invitées, il se passe un meurtre, et puis un deuxième, et puis un troisième. Et donc voilà, comme le genre de truc un peu classique à la Agatha Christie, bah il faut savoir qui est le grand méchant dans cette histoire. Voilà. Et puis voilà, cette histoire de nécromancienne lesbienne, c'est quand même hyper restrictif, hyper réducteur même d'ailleurs en bon français. Donc voilà, c'est quand même assez limité comme description. Voilà. Nécromancienne, oui, lesbienne, c'est quand même pas le principal sujet de l'histoire. Hein, donc...
Alors, vraiment, je présente mes excuses, hein, je voulais vraiment manquer de respect à personne avec ce résumé-là. Je l'ai vraiment...
Ah non, je sais, c'est juste que c'est ce qui est, je crois que c'est ce qui est écrit sur Amazon ou quelque chose comme
ouais,
ça. Non,
en fait, j'ai simplement lu le résumé, comme moi j'ai pas lu le livre. Effectivement, c'est vrai qu'à souvent, je voyais que dans les résumés, c'était évoqué, donc je me suis dit, est-ce que c'est important ou pas
bon. Non, en fait. Ok. Mais vraiment pas. C'est... Ben, je pense, oui.
Alors ça, clairement. Marketing.
Mais c'est pas spécialement... Elles peuvent être ce qu'elles veulent comme orientation sexuelle, ça change pas grand, ça change rien à l'histoire. Voilà, donc c'est juste un excellent bouquin avec d'excellents personnages. Voilà. Mais la nécromancie, oui, ça en fait partie quand même. Ça c'est juste même carrément la base des personnages. Donc voilà.
Gido.
Oui, bah du coup, rappelons que ce sera en 4 tomes, hein, si je dis pas de bêtises. Donc le deuxième arrive en avril, toujours chez Actes Sud.
Haro, la 9e.
Oui, c'est ça, ouais.
Paraît-il que l'intrigue est aussi relativement barrée, mais que tout se tient sur la fin. D'après les retours qu'on a pu en avoir.
Chez Actes Sud, on peut aussi citer le voyage sur les mers du prince Takaoka, qui est sorti en fin d'année, dans un registre beaucoup plus... on va dire contes et légendes, mais qui pourraient intéresser un certain public, comme la chronique de Gilles Tanas La Montrée, donc un registre très différent pour le coup, mais on peut aussi le classer en fantasy, donc je pense que ça méritait d'être cité.
Très bien. On passe à AQSF. Donc chez AQSF, on a notamment eu Les Chiens de Porcelaine, de Barillier et Duquesne.
Ouais. Cécile Duquesne et Étienne Barillier. Alors, autant j'aime bien le steampunk. Alors, ça reste... Soyons honnêtes, hein, c'est une lecture très plaisante. Voilà, c'est très agréable à lire. Ils ont mis en place un monde et des personnages avec le premier tome, parce que Les Chiens de Porcelaine, c'est le deuxième tome des Brigades du Steam. Mais bon, voilà, on va dire que c'est un peu un truc qui se lit sans trop avoir besoin d'activer son cerveau. C'est une enquête sympathique avec, on va dire, très basique en matière de steampunk. Encore une fois, oui, ça se lit, hein, vous perdrez pas vraiment votre temps ni votre argent si vous achetez le bouquin. Mais disons qu'il y a peut-être plus intéressant, un tout petit peu plus intéressant à lire en matière de steampunk, je trouve, personnellement.
D'accord. Donc, tu n'as pas accroché plus que ça.
C'est vraiment le bouquin, mais par excellence, tu vois. C'est-à-dire, tu détourneras pas les gens. Je ne détournerai pas les gens qui ont envie de le lire, loin de là. Mais voilà, c'est vraiment ce que je dis. Si vous avez autre chose à lire, peut-être mettez pas nécessairement Les Chiens de Porcelaine au sommet de votre liste, quoi. C'est...
D'accord. Qui a lu Summerland ?
Alors là, on passe du mai à carrément blas. J'ai détesté ce bouquin. J'en ai parlé.
Ah, moi, j'avais beaucoup aimé.
J'en ai parlé. Mais ça m'étonne pas parce que généralement, on aime carrément des trucs totalement opposés, Gilo. Donc,
ah oui.
Quand tu détestes, j'adore. Et quand tu adores, je déteste. J'en ai parlé pendant le podcast sur les one-shots. Et personnellement, non, pas du tout. Mais du coup, je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un qui pourra en dire du bien.
Oui, je l'avais lu à l'époque en VO et c'est vrai que j'avais été presque étonné que ça sorte chez ActuSF. Mais d'un côté, parce que c'est sorti là au début de l'été, hein, enfin au début de l'été 2022, et d'un côté, tant mieux que finalement le bouquin ait pu avoir une vie en VF. Hein, moi, je vais pas m'en plaindre. C'est sûr qu'on aura un avis totalement différent. Mais moi, j'avais vraiment accroché justement à l'univers qui était développé. Je trouvais que ça sortait vraiment des sentiers battus. Après, c'est sûr que c'est très particulier et que du coup, plus tu adoptes, on va dire, des trucs un peu finalement, à même de décontenancer, et plus tu risques d'attirer qu'une frange du public. Moi, j'avais pas lu ce que l'auteur a fait en SF, parce qu'il avait d'abord été publié chez Bragelonne en SF.
Dirigeant Flambeur.
Et c'est vrai que je crois qu'il était précédé d'une belle réputation. Même si Brajlon n'avait pas forcément la preuve à insister avec lui, avec cet auteur-là. Mais moi, je pense que ça se tente, mais après, voilà, je vous encourage quand même à aller voir de ce côté-là, parce que ça explore des territoires un peu, justement, inédits.
Très bien.
Ah oui, c'est pas les territoires qui m'embêtaient, c'était vraiment le côté... j'ai l'impression de lire une préquelle. Encore une fois, je l'avais déjà dit dans le podcast sur les one-shots, mais j'ai l'impression d'avoir lu une préquelle qu'il aurait fallu que je lise une pentalogie derrière pour comprendre, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manquait la moitié des infos. Donc, c'était pas... C'est ça qui m'a un peu rebuté, dirons-nous.
Et toujours chez le même éditeur, chroniqué également sur le site par Terriblius, donc je vous invite à aller lire sa prose. Il y a eu, en fin d'année... L'héritage de l'esprit roi de Claire Crust, donc dans un registre beaucoup plus, fantasy orientale, asiatique, comme vous voulez. La chronique est plutôt positive, donc là aussi, si c'est des ambiances que vous aimez...
C'est clairement ambiance mythologie japonaise, non ? Ouais, c'est ça.
Oui, oui.
Ok, on a fait le tour pour AQSF, on attaque avec Albin Michel. Une année assez chiche, Gilo, non ?
Oui, c'est ça, en titre de pure fantasy, je pense qu'il n'y a pas forcément grand chose. Il y avait eu L'Architecte de la Vengeance de Toshi Onibushi en mars, mais là, pour le coup, pareil, c'est pas du tout de la fantasy classique, hein, puisque ça se passe dans notre monde, à notre époque, et voilà, c'est quelque chose qui est très marqué par l'actualité. Donc, c'est un bouquin assez singulier lui aussi. Mais moi, j'estime qu'on peut classer en fantasy. Maintenant, le gros morceau fantasy d'Albin Michel, c'était pas chez Albin Michel Imaginaire, c'était chez Terre d'Amérique, avec Léopard Noir, Loup Rouge de Marlon James. Voilà, bah, c'est un roman épique, pour le coup, clairement fantasy. Donc c'est vrai que, bon, peut-être qu'ils se sont dit qu'ils toucheraient encore plus de monde en étant chez Terre d'Amérique qu'Albin Michel Imaginaire. Mais d'un côté, c'est toujours pareil, tu prives la collection d'un titre fort. Alors que bah, il avait clairement sa place pour moi dans la collection imaginaire de Gilles Dumay. Hein, mais en tout cas, c'est un roman qui était en tête de mon top 10 de l'année lors de sa parution en anglais en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et ce n'est pas par fainéantise que je l'ai remis en tête cette année.
Ah oui.
À l'occasion de la sortie de cette VF. Mais parce que vraiment, pour moi, c'est...
Est-ce que tu l'as lu en VF, du coup ?
C'est un très, très bon roman. Très... très singulier, hein. On peut être rebuté dès les deux premières pages, je l'entends tout à fait, vu ce qui s'y déroule, ce qui est raconté plutôt. Mais voilà, bah, pour ceux qui se plaignent que la fantasy, c'est toujours la même chose, que ce soit dans ses héros, ses personnages principaux, on va dire, parce que des héros, il n'y en a pas forcément beaucoup dans ce roman, les cadres qu'elle utilise ou ses thématiques, clairement, pour moi, c'est un roman qui peut que vous détromper.
Très bien. Safron, je crois que tu voulais dire un mot des Flibustiers de la mer chimique également, de Marguerite Imbert.
Ouais, alors je ne l'ai pas lu, mais celui-là, il est vraiment dans ma wishlist parce que j'en ai entendu que des échos hyper positifs, disant que c'est complètement barré et pareil, le genre de truc qui... Après, manifestement, il y a débat sur le qualificatif de fantasy. Est-ce que c'est de la fantasy? Est-ce que c'est de la SF? Est-ce que ça a les fesses entre deux chaises? Bon, mais vraiment, tous ceux qui en ont parlé n'avaient que des très bonnes choses à dire dessus, donc j'ai vraiment, je suis vraiment curieuse. J'ai hâte de me lancer.
Clairement, pour Gilles Dumay, ça doit pas être de la fantasy, hein, puisque comme d'habitude, quand un titre, quand pour lui un titre n'est pas fantasy, ben il nous l'envoie pas en SP, tout simplement. Ce qui a été le cas pour celui-ci, donc a priori, lui, le considère comme de la SF. Voilà.
Ok.
Bon, bah, c'est réglé. Et on passe à l'Atalante, donc du Jelly Clark peut-être, Gilo ?
Oui, bah surtout avec la sortie de Maître des Jeans, si je ne dis pas de bêtises, en février ou mars, il me semble. En plus, avec une très belle édition, donc c'est le genre de livre qui forcément va attirer le regard, hein, que ce soit la maquette, etc. Et puis bah, si vous aimez pour le coup le steampunk, pareil, avec un côté enquête, un côté... voilà, personnage féminin fort, etc. Ça se lit très facilement. Je trouve qu'on en...
Des petits bouquins. Hein.
Non, le Maître des Jeans, pour le coup, c'est un roman. C'est pas une nouvelle.
Ah non, Maître des Jeans, ouais, non, c'est un vrai, c'est un pas, les Maîtres des Jeans, un peu quand même. Hein, donc,
C'est dans le même univers que ces novellas, mais steampunk, mais c'est pas. Là, pour le coup, c'est un roman. Donc. Il fait même une taille tout à fait correcte.
Ok.
Voilà,
okay.
Je pense que, clairement, chez l'Atalante, ça a été. Surtout ça, hein, et puis des rééditions de ci, de là, les Alvin Lefeuzeur, il y a dû avoir un Quai aussi cette année en réédition, il me semble. Je ne sais plus lequel.
Il n'y a pas. Alors, j'ai le nom en anglais, mais j'arrive plus à retrouver celui en français.
C'est le nouveau qui va sortir, celui-là, non ?
Brightness Long Ago. C'est je comme crois, un diamant dans la mémoire.
Je crois que cette année, c'était que les rééditions.
Ah, il va sortir, il n'est pas encore sorti.
Donc, si je ne dis pas de bêtises, hein, je te dis, c'est peut-être moi qui suis en train de dire
une
grosse bêtise, mais a priori, bon, voilà. Ouais, je pense qu'en fantasy pure et dure, là aussi, enfin, pure et dure, si on peut. Voilà, c'est surtout Clark qui s'est distingué chez l'Atalante.
Oui, et autant je disais que les brigades du Steam, les chiens de porcelaine, c'était du steampunk relativement très très classique. Là, ça ne l'est pas. Voilà, ça c'est. Je ne sais pas si c'est juste le changement de continent, le changement de ville. On a tellement l'habitude de la France et de l'Angleterre et de la France pour le steampunk qu'à partir du moment où tu passes, au Caire, forcément, ça change à peu près tout et y a une mythologie totalement différente et un mode de vie totalement différent, une culture totalement différente. Et moi, ça m'a complètement plongé dedans. J'ai trouvé que le monde créé était top, quoi. On a vraiment envie d'en savoir davantage sur cet univers. Il peut y avoir 46 tomes écrits sur le sujet. Moi, je Je serai présente, je les lirai. Je prends, exactement.
Très bien. Eh bien, nous passons à Argile. En fantasy pure, on a eu quand même quelques beaux titres, non, Gilo?
Oui, bah là, récemment, en fin d'année, il y a eu L'Oiseau Blanc de la Fraternité, hein, de Richard Cooper, qui a été qui est une intégrale, pour le coup. Hein, c'est un gros bébé, c'est le cas de le dire. Le volume est assez impressionnant. Beaucoup plus petit, beaucoup plus court, hein, parce que je crois qu'on n'atteint même pas les 200 pages. Et bah, on a Un pays de fantômes, de Margaret Killjoy, qui est sorti fin août, si je ne dis pas de bêtises, qui était la grosse sortie dans ce registre de l'éditeur. Hein. Bah, un roman qui était justement vraiment poussé par Argile. Personnellement, je l'ai trouvé bon, hein, c'est ce que j'ai dit dans ma chronique. Pas forcément extraordinaire, cependant. Moi, le propos sur la guerre ou l'utopie qui est développée m'a pas bluffé au sens, je me suis dit, oh là là, c'est incroyable. Pour moi, j'ai trouvé ça bien mené, mais finalement, assez convenu, même dans ses développements et tout. Par contre, c'est clairement à lire, parce que c'est assez... Enfin, le contexte est assez original, hein, parce qu'on suit un journaliste qui est en reportage, en somme, dans un pays en guerre, une colonie. Mais même ça, c'est pas forcément de l'inédit, y compris en fantasy. Donc voilà, je trouvais que c'était très, très, très recommandable, mais j'ai pas sauté au plafond.
Je suis assez d'accord, le monde était vraiment sympa. Le style m'a bien plu aussi, je crois me souvenir que c'était quand même bien agréable à lire. Bon, comme tu dis, hein, c'était pas... Voilà, c'est le propos sur la guerre ne révolutionne pas grand-chose. J'ai trouvé que le package arrivait à être, à être original. Et comme tu dis, c'est très, 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 très recommandable. Et sachant que ça fait moins de 200 pages, franchement, je vous invite à le lire, ça prendra pas le même temps de lecture que le nouveau Camille, le boulanger, que j'ai toujours pas osé acheter. Parce que 800 pages, je vais avoir du mal. Hein.
Utopia,
ouais, c'est ça. Mais voilà, il me parle aussi celui-là, mais j'ai 2-3 bouquins entre 800 et 1000 pages qui m'attendent sur mon Kindle. Je vais éviter d'en rajouter un autre parce que Kindle, j'ai suffisamment de mal.
T'as pas l'impression, tu te rends pas compte de la taille du coup. Enfin, t'as le pourcentage. Mais...
Ah ouais, mais c'est quand tu vois le pourcentage qui défile pas que tu te rends bien compte de la taille de la taille du bouquin.
300 pages, j'étais toujours à 1%, c'est vrai que...
Ouais, c'est un peu contrariant, quoi.
Ouais, mais 300 pages pour un Kindle. C'est pas 300 vraies pages, quand même.
Bon, on passe aux Forges de Vulcain et William Morris.
Ouais, bah ouais, je sais qu'on n'est pas dans les... nouveauté à strictement parler, hein, puisque William Morris est mort en 1896, faut-il le rappeler. Donc voilà. Mais cette année, les Forges de Vulcain nous ont sorti Le Pays Creux et Un rêve de John Ball. Pour des raisons, on va dire, strictement politiques, qui sont un peu la base de l'écriture de William Morris quand même, hein, j'ai beaucoup plus apprécié Le Pays Creux qu'Un rêve de John Ball. Et là aussi, c'est marrant parce que d'ailleurs, on retrouve le thème de la guerre dans Le Pays Creux, hein, tout ça pour dire que la guerre, c'est mal. Voilà, c'est pas cool en tout cas, parce que figurez-vous que ça fait des morts et que les gens sont un petit peu traumatisés derrière. Et accessoirement, Le Pays Creux, c'est quand même aussi le plus largement fantasy des deux bouquins, même si c'est évidemment beaucoup plus de la romance médiévale que de la fantasy telle qu'on la définit aujourd'hui, mais là encore, c'est typique de William Morris, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et c'est vrai que niveau objet physique, les Forges font vraiment du très bon boulot, je trouve, avec leurs éditions de Morris. Notamment parce que, au début, vous avez une petite intro rédigée par William Blanc, qui est donc le spécialiste de la question. Et ça permet de remettre bien les choses en contexte. Donc c'est quand même très agréable. Pour la collectionneuse compulsive de William Morris que je suis, parce que je suis quand même allée à Roubaix, hein, pour le plaisir de voir l'expo Morris qui s'est tenue... au musée La Piscine de Roubaix et je peux vous dire que je ne l'ai pas regretté. Donc, ouais. C'était une bonne année, Maurice, en ce qui me concerne.
Ah, ça va, Roubaix, il y a pire, quand même.
C'est pas tout près de chez moi, en fait, c'est ça. Je suis en région parisienne, disant que Roubaix, ça fait loin pour voir une expo, quoi. C'est ça que je veux dire.
Un TGV, c'est vite fait.
Roubaix, Gino.
Je suis obligé de défendre le Nord. Hein,
c'est ouais, ouais. Je ne critiquais absolument pas le Nord. C'est juste que c'est pas du tout mon coin. En fait, c'est ça que je voulais dire. Et que voilà, j'ai passé 2 jours là-bas et j'ai fait 6 heures de route aller-retour pour.
Quand on aime, on ne compte pas.
Voilà, c'est ça. Ah, c'est pour une expo qui, au final, était finie en une demi-heure. Donc, heureusement qu'il y avait le reste de. Elle était bien, l'expo, mais elle était finie en une demi-heure. Donc, heureusement qu'il y a toute la piscine de Roubaix qui est absolument spectaculaire autour. Parce que, voilà, du coup, ça justifiait carrément le déplacement.
On précise bien que tu parles d'un musée. Hein.
Oui, oui, c'est dans l'ancienne piscine. Voilà, c'est l'ancienne piscine de Roubaix. Ouais. Un monument art déco absolument magnifique qui a été rénové en musée. Voilà, pardon, on s'éloigne du sujet, mais pour le coup, c'était, ouais, c'était vraiment ça. Génial. Si vous êtes dans le coin, si vous avez l'occasion d'aller voir ce musée, je vous le conseille vivement. Prévoyez 3 heures.
De route, à partir de Paris.
Ah non, 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 prévoyez 3 heures de visite du musée. Voilà. En plus des 3 heures de route que vous aurez fait depuis Paris, si vous êtes parisien, effectivement.
Ça marche. Et puisqu'on parle des forges, comment ne pas citer donc les 2 tomes de La Tour de Garde de Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier, hein, donc respectivement Mort au Jet et Les Trois Lucioles. Donc ça, c'était aussi une grosse sortie chez les forges.
Oui, mais c'est vrai que bon, perso, je suis pas à jour malheureusement, donc je pourrais pas dire grand chose de plus sur ces 2 titres qui connaissent évidemment un très beau succès. Voilà, ça on peut le rappeler, mais pour l'instant, je ne pourrais pas en dire plus sur les 2 de.
On passe au Bélial, avec La Maison des Jeux de Claire Norse.
Oui, les 2 premiers.
Moi, je l'ai lu, ouais, je l'ai lu en anglais, donc j'ai eu la chance d'avoir les trois d'un coup. Et puis comme ça faisait un vrai roman au lieu de trois novellas. Et, ouais, pareil, une bonne surprise. Encore un truc qui sort un petit peu des sentiers battus de la fantasy, j'ai trouvé. Donc c'était sympa. La narration éclatée entre... officiellement, c'est 3 novellas avec 3 époques et 3 points de vue différents qui finissent par se rejoindre. Ouais, c'était très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé le concept. Cette idée de pouvoir jouer ta vie, ta mémoire, ta jeunesse sur n'importe quel jeu possible et imaginable, j'ai trouvé ça vraiment très sympa.
Bah moi, j'ai lu que les 2 premiers pour l'instant. J'ai pas encore le 3e, là, vient d'arriver, mais je l'ai pas encore ouvert. Et c'est vrai que j'ai vu, comme tu dis, ça sort un peu des schémas classiques, clairement. J'ai préféré l'ambiance du 1er, moi. Donc, tant que je dis pas de bêtises, à Venise.
Oui.
Oui, voilà. Et même si, bon, ceux d'entre vous qui sont sur le forum le savent, j'ai particulièrement détesté un personnage. J'ai rarement vu un protagoniste, même secondaire, aussi caricatural. Mais bon, je me suis déjà largement épanché sur le sujet. Mais voilà, après, j'ai bien aimé l'ensemble. Ça, c'est... Voilà, on a envie de savoir comment ça va tourner. Donc, je recommande. Et puis, Claire Norse, voilà, on commence à plus vraiment la présenter. On peut dire que c'est une valeur sûre.
On dirait le concept de David Farland, de Les Seigneurs des Runes, mais en bien fait. Voilà. C'était ma petite pique. Voilà.
Super. Voilà.
N'ayant pas lu David Farland, je ne me permettrai pas de
en
juger.
En plus, tu t'attaques à mort, c'est moche.
C'est vrai, je m'attaque mais pas à lui, je m'attaque à son œuvre. C'est
oui, oui. Bah, sinon, c'est chez Le Bélial, la grosse sortie fantasy, pour le coup, bien classique. C'était Noun du Soleil Noir de Laurent Klötzer, hein, un hommage à Fritz Leiber et à Lankmar, sa cité. Il ne s'en cache pas, hein, de toute façon, c'est sur la 4e, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est tout à fait ça. J'ai bien aimé. Après, je suis récemment tombé sur l'avis de notre cher camarade Merwin Tonnel sur le forum. Et un avis que je rejoins sur un certain point, c'est notamment ce qui est très important dans cette histoire aussi, c'est la ville hein, qui sert de cadre à l'intrigue. Et c'est vrai que, un peu comme Merwin, je pense qu'elle aurait pu être plus vivante. C'est pas un décor. J'ai pas trouvé que c'était non plus un décor en carton-pâte et qu'on sentait les gens en train de déplacer les façades pour voilà. Mais oui, je suis là-dessus. Je suis finalement en y repensant, je suis un peu d'accord avec Merwin. Ça aurait pu être encore mieux. Et comme de toute façon, il y a un tome 2 qui s'annonce, peut-être que le tome 2 sera encore plus efficace. Voilà.
Bien. En tout cas, on guettera ça. On passe à Bragelonne avec ouvrons le bal avec Enquêteur du Paris des Merveilles.
Oui, bah, je sais qu'il y en a un qui n'a pas aimé, hein, mais moi, le Palais des Merveilles, j'y retourne toujours avec plaisir, que voulez-vous que je vous dise? Et pour le coup, bah, c'est le troisième recueil de nouvelles qui se passe dans le Paris des Merveilles, l'univers créé par Pierre Pével. J'avais bien aimé le premier, j'avais pas du tout été convaincue par le deuxième. Le troisième remonte quand même un petit peu le niveau. Voilà, je trouvais qu'il y avait quand même. Et puis on est passé accessoirement à des auteurs qui ne sont pas des débutants. Je pense que c'est aussi pour ça que ça relève un tout petit peu le niveau, parce que voilà, j'ai plus grand respect pour les gens qui ont soumis les auteurs non professionnels qui ont soumis des nouvelles pour les recueils précédents, mais on sent quand même la différence entre les pros aguerris et les débutants, quoi, tout simplement. Donc voilà, le côté enquêteur du Paris des Merveilles était quand même un tout petit peu plus. Il y
Mature.
avait un niveau supérieur, il y avait, voilà, mature, exactement, il y avait un niveau supérieur au tome 2. Mais voilà, mais s'il y a un tome 4, s'il y a un tome 5, s'il y a un tome 6, moi, vous trouvez les thèmes que vous voulez. Moi, je retourne toujours au Paris des Merveilles avec plaisir. Voilà.
Très bien. On passe à évidemment ce qui fut un des succès de l'année pour Bragelonne, c'est Shelley Parker Anne, celle qui devint le soleil.
Effectivement, ça a été un beau succès. Hein. Faut dire que l'édition était, l'édition cartonnée était quand même magnifique. Donc, pareil, hein, notamment en festival, je pense que c'était un carton assuré parce que ben, ce genre de bouquin, tu l'achètes, même à la limite, même si t'as pas de signature,
Ouais.
Il est beau,
voilà,
ouais.
tu vas l'acheter parce que tu as envie de l'avoir dans ta bibliothèque, même si tu sais que tu vas le lire 9 à 12 mois plus tard ou même dans 2 ans. Voilà, je pense que ça a beaucoup marché là-dessus. Bah sinon après voilà le registre reste dépaysant même si la fantaisie d'inspiration asiatique bah, on commence à connaître hein, c'est plus vraiment nouveau alors après tu peux faire d'un personnage qui normalement est un homme une femme voilà et baser ton intrigue là-dessus mais ça non plus c'est pas la première fois donc moi j'ai vraiment bien aimé mais un peu comme un pays de fantômes ça je le porterai pas forcément au nu quoi. Mais c'est une lecture tout à fait, encore une fois, recommandable, je trouve.
J'ai trouvé ça très long, j'ai trouvé ça très lent, et puis je suis pas la cible, je suis désolée. Enfin, voilà, de toute façon, je le sais, l'inspiration asiatique, ça n'a aucun effet sur moi, c'est pas du tout mon rayon, et je savais quand on l'a nommé au prix Elbakine, j'y suis allée en traînant des pieds, ça n'a pas loupé, voilà. Mais bon, après, c'est vraiment une question de goût personnel. Je sais que c'est pas mon kiff, donc. Ne prenez pas mon avis pour argent comptant, parce que je pars biaisé de toute façon.
Et
Voilà.
c'est parce que tu l'as pas eu en physique, le livre.
Ouais, mais enfin, en même temps, alors je sais, oui, effectivement, je l'ai vu en librairie. Je sais qu'il était très très agréable à regarder, mais ouais, non non, voilà, j'ai préféré. À partir du moment où j'ai un doute sur le fait que ça va me plaire, j'ai tendance à l'acheter en Kindle pour éviter d'encombrer ma bibliothèque. Donc c'est ce que j'ai fait, mais voilà, je pense que le physique aurait ajouté un demi-point peut-être sur 20 à ma note, mais c'est à peu près tout. Donc voilà. Mais oui, très très bel objet, très beau boulot de la part de Bragelonne sur ce coup-là. C'est vrai que il était vraiment magnifique.
Beaucoup de succès aux imaginaires. On passe à De Noël, ou ce que vous voudrez de Joe Walton, peut-être, en sortie.
Drop the mic, mon numéro 1 de l'année. Voilà, c'est-à-dire que quand on a fait le top, pour une d'habitude, je me dis toujours, oh là là, qu'est-ce que je vais mettre en numéro 1? Là, c'était plutôt qu'est-ce que je vais mettre de 2 à 10, quoi. Parce que le premier, c'était effectivement, j'en étais sûre,
Ah,
c'était ça.
c'était pas possible de
Moi,
mettre 10 fois Joe
j'ai.
Walton, quoi.
Bah non, je trouvais que c'était pas très constructif après, donc voilà. Mais non, j'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré le concept. Je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé ça. Prétentieux et pas très original, mais je sais pas. Moi, j'ai vraiment été à fond dans l'histoire de cette auteure vieillissante dont le personnage récurrent va essayer de changer sa vie, quoi. Tout simplement, voilà. C'est un personnage qui vient agir sur la vie de sa créatrice. Et j'ai trouvé ça magnifique. Le mélange de ce qui se passe dans la vraie vie, de ce qui se passe dans le roman qu'elle écrit. On sait plus tout à fait ce qui est vrai entre guillemets, est-ce qu'il est pas, parce que bon, c'est de la fantaisie, hein, donc à partir du moment de toute façon où vous avez un de vos personnages qui commence à vous parler et avec qui vous commencez à avoir des conversations, posez-vous des questions. Mais non, c'était superbe. Moi, ça m'a retourné et je ne peux que vous le conseiller ardemment.
Très bien. Nous sentons ta ferveur.
Ah ouais.
On passe.
En plus, on peut rappeler que quand même, De Noël, Lune d'encre, de toute façon, une très belle collection avec Pascal Godbillon à sa tête. Un très bon éditeur.
N'est-ce pas ?
Soit dit en passant.
Soit dit en passant.
En toute objectivité.
Si Pascal nous écoute. On passe également à un autre gros morceau de l'année écoulée, donc chez L'Homme sans nom, Le Chant des Géants de David Brie.
Assez classique comme fantasy, mais ça a marché. Pour moi, ça a marché. Effectivement, pas de concept exceptionnel ou quoi, mais je sais pas. L'écriture de David Brie, de toute façon, je la trouve toujours extrêmement poétique, extrêmement fine. Elle fait toujours mouche, je trouve. Donc, à la limite, ouais, c'était plus pour l'ambiance que pour l'histoire elle-même. Ce côté faux viking était vraiment très plaisant.
Et à noter que c'est en plus, pour le coup, un vrai succès de librairie, hein, puisque le bouquin cartonne vraiment, vraiment pas mal pour de l'imaginaire. C'est un vrai beau succès.
Et encore un joli ouvrage, d'ailleurs.
Oui, et là, j'ai hésité aussi. Ouais. Est-ce que je l'achète en physique ou est-ce que je l'achète en Kindle ? Parce que ouais, l'objet avait l'air très beau aussi.
Un livre marquant, en tout cas, de cette année écoulée. Et on va passer aussi à un autre gros morceau, hein, avec les éditions Léa, et la fin du...
Alors, oui, voilà la qualité.
Alors, du coup...
du côté des éditions Léa, oui, il y a eu plein de trucs, hein, surtout en côté traduction, parce que cette année, Léa a voulu un peu sortir l'artillerie lourde, hein, donc on a eu droit au poudre mage... de Brian McLellan, hein, le tome 3 arrive bientôt, Malice de John Gwynne, pareil, qui est sorti à la rentrée, si je ne dis pas de bêtises, mais, bah, on... et puis bien sûr la fin du Livre des Martyrs, et le premier tome de Hesselmont, qui est des Malaséens. Bah, après on connaît Léa, hein, c'est une énorme présence sur les réseaux sociaux, beaucoup beaucoup de publicité pour pousser ses titres, y compris auprès des libraires, voilà, donc... L'AVO, ça fonctionne plutôt, hein, en termes de chiffres, clairement. Après, tous les titres ne fonctionnent pas de la même manière, tous ne sont pas de la même qualité. Moi, Malice, techniquement, c'est un bon livre, hein, dans son registre, très guémel, mais je ne suis pas tombé à la renverse comme certains qui le poussent d'une façon parfois quasiment délirante. Hein. Mais c'est tout à fait voilà, c'est sympa, mais une fois que tu l'as refermé, voilà quoi. Tu vois la suite, tu tombes sur la suite, tu vas avoir envie de la lire, mais moi, je vais pas noter la parution avec Frédéric.
Ouais, c'est un bon livre. Le bon livre, tu le fermes, tu as envie de lire la suite. le mauvais livre, tu le fermes,
t'as
envie de lire la suite.
Exactement. Non mais voilà, après bah, c'est sûr que du côté d'Erickson une page se tourne et on peut quand même saluer l'éditeur pour avoir publié 10 tomes aussi,
ouais,
je dis pas ça aussi. Parce que j'en ai traduit 4, mais pour avoir tenu les délais de publier 10 tomes en 4 ans et demi,
ouais. C'est beau, il faut le saluer quand même.
On salue quand même les traducteurs aussi, hein.
Ouais, bah, merci pour Nicolas et moi. Pour tous ceux qui pensaient qu'il y avait des doutes, qui se disaient que bah, peut-être que ça n'arriverait pas au bout, qui déjà se demandaient si, après les deux premiers, est-ce que vraiment on dépasserait ce qui avait déjà été traduit en français précédemment. Bah, voilà, ça a été la preuve que, bah, en étant... Effectivement, je pense que les délais de 6 mois entre 2 tomes ont beaucoup joué pour quand même maintenir l'intérêt, même si à la fin... tu commences, arrivé au tome 6-7, tu commences à voir des gens quand même qui trouvent presque que ça va trop vite. Voilà.
Bah, faut dire qu'on a à peine le temps de lire un tome entre chaque 6 mois. Quoi.
C'est des pavés quand même, c'est ça. C'est des sacrés pavés, il faut les descendre avant le tome suivant.
Tout à fait. Et puis c'est vrai que la communication de Léa, de façon générale, est quand même assez agressive. Donc tout le monde appréciera pas forcément ça de la même manière. Hein. Pour certains, c'est ah bah tant mieux pour la fantasy. Voilà. Pour d'autres, bah, truc quand même que c'est un peu forcé. Voilà, pousser des titres artificiellement. Bon, voilà. Bah, moi, je vais pas m'en plaindre le temps d'avoir travaillé sur cela, mais on va dire que je suis bien content que ce soit terminé. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Tu n'attaques pas SL Monde dans la foulée.
Non, non, moi ça m'ira. Hein. Ça m'ira très bien.
Non, c'est un gros chapitre qui se termine. C'est vrai que sur Albaquin, on en a parlé pendant des années d'Ericsson. On l'a poussé à une époque où on pensait que ce serait jamais possible, en fait, d'être retraduit en français. Hein, faut pas l'oublier. Hein. Donc là, on est passé à dans une réalité où bah il a été retraduit et tout est disponible maintenant et tout un chacun peut lire du tome 1 au tome 10 et en tout cas en grand format et la parution poche est en cours. Voilà. Maintenant, personnellement, pour moi, c'est aussi la fin d'un long calvaire. Enfin, c'est pas encore la fin parce que je suis dans le tome 10 et je trouve ça super chiant. C'est passé de un des auteurs que je préférais à un des auteurs qui vraiment m'agace énormément hein, sur le. Mais ça, c'est vraiment purement de la qualité. Je parle vraiment juste de la qualité du livre. C'est vraiment, je l'ai souvent dit en forum, hein, mais pour moi, Ericsson, il y a un vrai gap après le tome 6, les 6 premiers tomes. J'ai rien à dire dessus. Au niveau de la qualité, c'est, je trouve ça vraiment excellent. À partir du tome 7, ça se dégrade vraiment énormément et c'est affreux pour moi dans le tome 8, même c'est affreux encore pire dans le tome 9 et le début du tome 10 c'est pareil. Donc voilà où j'en suis et j'avoue que je suis gavé d'Ericsson. Donc j'ai hâte d'avoir fini et de passer à autre chose.
Ah, c'est cette sensation que
moi je dois dire que le tome 9 est peut-être celui que j'ai le moins apprécié.
Ah, il est affreux.
Arrêtez, c'est le dernier que j'ai traduit. Pensez à moi qui ai dû le relire 10 fois.
je sais pas comment t'as fait. Enfin, je veux dire, enfin.
Mais signalons d'ailleurs en parlant d'Ericsson que maintenant la publication a commencé au livre de poche. Hein, pour ceux qui.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Oui, non, pardon, j'avais pas calculé.
On ne m'écoute pas.
Au livre de poche, hein, déjà vu la taille des pavés.
Ah bah, faut des belles poches.
En grand format, oh la vache.
Ouais, c'est au livre de poche kangourou. Hein,
c'est ça.
Avec cette
c'est au livre de sac à dos.
Ouais. Enfin voilà pour Léa, une saga qui se referme. Et on peut enchaîner sur l'humaine, peut-être parler de Galant, ou Galante, de Victoria Schwab. Pas comment on dit, si on prononce le T ou pas.
Galante, a priori, enfin en anglais en tout cas, c'est forcément Galante. Après, je vais continuer à le prononcer comme ça, surtout parce que c'est comme ça que je l'ai lu, c'est en anglais. Donc,
c'est très bizarre, je trouve, de dire Galant. Mais...
Ouais, c'est Galante, quoi, c'est le nom de la maison. Mais voilà, encore une incursion de Victoria Schwab en young adult, et réussi pour le coup, j'ai trouvé ça. Pour les gens qui s'inquiètent encore de se dire « Ah, mais je vais pas lire du young adult parce que c'est pas intéressant, machin », le young adult de Victoria Schwab, vous pouvez y aller, hein, c'est pas un souci. C'est très sombre, c'est vraiment une interprétation toute schwabienne de la littérature gothique, j'ai envie de dire, où la maison est presque... La maison, le jardin, parce que c'est important, sont presque aussi importants que les personnages, en fait. Et il y a une vraie atmosphère qui se dégage, et je sais pas pourquoi, je crois que je l'ai dit dans ma chronique, mais moi, ce bouquin, alors ça va être bizarre ce que je vais dire, mais ce bouquin, je l'ai lu en noir et blanc, et il y a des touches de couleurs qui se dégagent quand on te parle des choses, enfin des bottes en caoutchouc qu'elle met pour sortir dans le jardin, quand on te parle des fleurs, quand on te parle de la vie qui finit par reprendre. T'as l'impression que le noir et blanc finit par s'effacer et que la couleur finit par reprendre ses droits, voilà. Et c'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai eu un truc aussi vivace au niveau des couleurs dans ma lecture. Du coup, pour moi, c'était important de le mentionner dans la chronique parce que je crois que c'est vraiment la première fois que ça me fait ça. Comme dans la liste de Schindler, vous voyez le film en noir et blanc avec juste le manteau rouge de la gamine. Avec, alors, c'est pas aussi. C'est un tout petit peu plus gai que la liste de Schindler, quand même, hein, Galland, faut pas exagérer. Mais c'est un peu l'effet que ça fait. Voilà. Peut-être pas en noir et blanc, mais en sépia, en tout cas. Voilà. Donc, ouais, je recommande la lecture, parce que quand elle fait du. Enfin, j'adore Victoria Schaub de façon générale. Hein, je pense que c'est plus un secret, mais quand elle s'attaque vraiment au young adulte, elle le fait bien. Et je crois que c'était une sortie simultanée avec l'anglais d'ailleurs, donc c'est assez quand même assez rare pour le noter. D'habitude, c'est les Sanderson qui ont droit à ce genre de traitement, donc là, c'était plutôt intéressant, j'ai trouvé.
Ok, mais on passe aux éditions Nil avec Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa.
J'ai adoré ce bouquin. Oubliez ce que j'ai pas volé. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'ambiance asiatique, c'est pas pour moi. Bon, bah ça dépend. Parce que, on va dire, comme son nom l'indique, Monsieur Sosuke Natsukawa est un petit peu japonais. Et donc, le chat qui voulait sauver les livres se passe, je vais dire une petite ville, non, c'est même un petit village, hein, du Japon, où un jeune homme hérite de la librairie qui gagne pas un sou de son grand-père et qui envisage de vendre la librairie jusqu'à ce que un chat qui parle arrive dans sa librairie et lui disent que dans des mondes parallèles auxquels il peut accéder via les rayonnages de la librairie qui fait un peu comme le sac de Mary Poppins, hein, c'est-à-dire que la librairie elle est beaucoup plus grande au-delà d'un certain point qu'elle n'en a l'air de l'extérieur, et ben en accédant à ces mondes-là, il peut aller sauver des livres qui méritent de l'être. Et donc c'est à la fois un truc d'aventure, un parcours initiatique pour le personnage principal. Et puis chat qui parle, hein, j'ai envie de dire que voilà, rien que ça devrait vous donner envie de lire le bouquin.
Moi je vais l'acheter
pas
demain.
Du tout, non. Absolument pas. Non, zéro, rien du tout. Moi ça m'évoque le royaume des chats de Ghibli. J'ai détesté ce film d'animation. Ou même Si tu tends l'oreille, qui est peut-être un peu mieux, mais non, moi le royaume des
chats. Moi je suis Team Geeks là-dessus. Hein.
Ben écoutez, pour tous les gens à chat, je vous conseille ce. Pour les gens qui aiment les chats et les livres, je vous conseille cette lecture que j'ai vraiment trouvée.
Moi, je ne m'intéresse
shoot comme tout. Voilà, pour moi, c'était vraiment un truc feel good. Voilà, ça m'a vraiment fait du bien à la lecture et je le recommande.
Voilà.
C'est pas très long non plus. C'est pas très long, donc un tout petit peu plus de 200 pages, je crois. Donc c'est vite fait.
Et
voilà.
On passe un gros rayon imaginaire à présent avec Hachette.
Punaise, j'ai l'impression qu'on n'entend que moi, c'est terrible. Alors cette année chez Hachette, il y a eu Golden Age de Fabrice Collin. Alors j'ai trouvé que c'était une lecture sympa, avec, on va dire, le style habituel de Fabrice Collin, hein, qui donnerait du peps et de l'intérêt même à une histoire totalement banale. Mais j'ai trouvé que ce qui commençait comme une idée relativement intéressante finit par s'éparpiller un peu en vaudeville sentimentale, avec un final qui est quand même juste un poil excessif, traduisé complètement tiré par les cheveux, enfin bon bref. Et j'en suis ressortie sans trop savoir si j'avais adoré ou si ce que j'ai considéré personnellement comme de la représentativité forcée m'avait pris la tête. Et bah, j'en déduis que la vérité doit être quelque part entre les deux. Mais aujourd'hui encore, je me pose la question sur est-ce que j'ai aimé ce bouquin ou pas. Là, pour le coup, il faudrait que quelqu'un d'autre autour de cette table ait lu pour donner son avis. Mais...
Voilà, donc malheureusement, je pense que Safran, tu seras seul autour de cette table. Mais si vous voulez...
Toujours pas, je suis un grand amateur de l'auteur,
nous donner votre avis.
Pas encore eu le temps.
Toutes mes excuses.
On est preneur. Eh ben, on va pouvoir passer aux lectures en version originale, peut-être.
Vas-y, commence, Aka, parce que j'ai l'impression qu'on entend que moi, c'est épouvantable.
Là, je trépigne déjà de pouvoir en parler. Donc, je dois avouer que j'ai pas lu beaucoup de choses récentes dans cette année. Mais bien évidemment, je n'ai pas pu passer complètement outre le dernier Guy Gavriel Kay. Donc, All the Seas of the World. Donc, c'est un bouquin qui est un peu particulier, puisque finalement, c'est le troisième livre qu'il sort à une époque historique assez proche. Donc ça a commencé par Children of Earth and Sky, puis il y a eu Brightness Long Ago, et maintenant All the Seas of the World. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que ces trois tomes sont presque une trilogie. Ils se passent à quelques années, voire quelques dizaines d'années d'écart. Et on ne va pas suivre complètement les mêmes personnages, mais on va les retrouver en fait d'un tome à un autre. Et là où c'est un petit peu particulier, c'est qu'il a commencé par le troisième tome, puis ensuite il a écrit le premier tome quelque part, et là il finit par le deuxième tome. Et en fait, je pense vraiment que ça gagnerait à être lu dans l'ordre chronologique du bouquin et pas dans l'ordre de parution. Donc de commencer par A Brightness Long Ago, ensuite All the Seas of the World, et finir par Children of Earth and Sky. Et du coup, bah là, on retrouve, donc ça se passe peu de temps après la chute d'un simili Constantinople, et on se retrouve avec une Espéragne qui a jeté tous ses kindats de son territoire. Donc comprendre l'inquisition espagnole qui a enlevé toute personne de religion juive, de confession juive. Et en fait, ça parle beaucoup de l'exil, de ces kindas qui ont été exilés d'Espéragne, mais aussi de personnes qui ont été enlevées par des pirates, en particulier dès leur plus petite jeunesse, et qui reviennent dans leur pays alors que c'est plus vraiment leur, quoi. C'est un pays qui n'ont plus connu depuis longtemps, et avec le poids d'avoir été emmené, surtout pour une femme. Et il y a toute cette espèce de nostalgie du pays sans forcément le considérer encore comme son pays. C'est assez intéressant. Par rapport aux autres Guy Gavriel Kay, on a moins le côté artistique. Il n'y a pas de personnage artiste fort comme souvent. Mais on a toujours cette plume magnifique. Des personnages qui sont très bien faits. Je dirais pas que c'est le meilleur des Guy Gavriel Kay, loin de là. Mais ça reste un très très bon bouquin.
Bien. En tout cas, merci pour cette chronique.
Je t'en prie.
Qu'est-ce qu'on a d'autre en VO? Peut-être Legends and Lattes, Latte. Legends and Latte.
Legends and Lattes, oui, oui, c'est latte, comme le latte, que tu vas commander. Non, mais en fait, c'est-à-dire que les gens peuvent se poser la question, est-ce qu'on parle bien de latte, genre le truc que tu vas commander chez Starbucks? Oui, c'est ça, c'est exactement ça, et c'est tout le concept du bouquin. C'est un bouquin, alors comment ils le vendent? La tagline, c'est High Fantasy, Low Stakes. Donc c'est vraiment de la High Fantasy avec aucun...
Aucun enjeu.
Aucun enjeu. Strictement aucun enjeu. C'est une orque, c'est ça, hein, Gilo, si je me souviens bien. Une orque qui décide, une mercenaire orque qui décide de raccrocher l'épée et d'aller ouvrir un café. Voilà. C'est tout.
Très bien.
Elle a découvert le concept du café dans une ville naine, où, il me semble, et elle a décrété qu'elle allait ouvrir un café dans une ville où les gens n'ont pas entendu parler du café, de leur existence. Donc elle se fait livrer une machine à café, des grains de café par le royaume nain, et puis voilà, on la suit dans son ambition de lancer son Starbucks Fantasy, et j'ai pas réussi à poser ce bouquin. En fait, il ne s'y passe pas grand-chose.
Non, bah non.
Et c'est ça, c'est vraiment, il y a zéro enjeu. Hein. Elle veut juste son café.
Bah, le point de départ, c'est un voilà. peu penser à un jeu indé, quoi. Tu dirais un jeu vidéo indé où tu...
Complètement, ouais. Où tu dois construire ton café.
Lofi.
Ouais, c'est ça, c'est un peu le bouquin que tu lis avec une musique.
C'est
lofi,
ça,
Et voilà, ça va sortir en VF.
Tu déconnectes le cerveau, tu rigoles, tu t'attaches au personnage. C'est tout. Ça fait vraiment du bien Parce que c'est rarissime, ça, en fantasy, mine de rien. On arrive à trouver des bouquins avec de l'originalité, avec mais des trucs où il n'y a pas un enjeu absolument de sauvage de monde ou de destinée exceptionnelle, mine de rien, c'est rare. Et voilà, donc un bouquin de fantasy juste hyper cosy, avec des personnages agréables où il se passe pas grand-chose. Et où on te parle juste de café.
Ah, bah voilà, là, tu as dit le mot pour me le vendre.
Moi, je vous le conseille. Ah oui, notre pâtissier résident chez Elbakin.
Ouais, moi, j'y vois aucun intérêt. Mais...
Ah, mais tu vois, l'intérêt, ça peut être de vraiment juste entre deux tomes d'Erickson, quoi. Tu vois, Erickson, au bout d'un moment, c'est un peu, un peu long. C'est un petit peu exigeant.
Ah bah,
c'est
ça,
un petit peu... Voilà. Bah, là, non. Là, t'en as pour 250 pages.
Et peut-être que juste entre deux tomes d'Erickson, tu trouveras ça génial, quoi.
Ouais, mais il faut dire...
Bah, c'est ça.
Mais il faut dire à Geeks que, c'est... que les grains de café sont légendaires et qu'ils ont 100 000 ans.
C'est ça.
Voilà, donc, si vous voulez un peu de fantasy sans aucun enjeu, voilà. Mais avec 36 000 races possibles et imaginables, il y a des gobelins, il y a des...
Il y a tout le bestiaire.
Il y a des humains, il y a une succube, non, c'est pas ça?
Oui, je crois bien, ouais.
Voilà, il y a une orque, il y a les nains qui débarquent. Donc c'est vraiment de la high fantasy, hein. C'est vraiment.
Ah bah, l'univers, oui.
Ils sont juste là.
Ça fait un super scénario de jeu de rôle.
Ouais, ouais. Et ils sont juste là pour avoir leur latté. Voilà.
Alors, c'est en passant, il y a tout un tome d'Erickson où il y a des bridge burners qui ouvrent leur café. Hein.
Oui.
Alors, c'est un bar, d'accord, mais...
Oui, c'est un bar. Ouais, alors déjà, c'est un bar. Ensuite, à un moment, il y a peut-être la meilleure scène qui se passe, la scène la plus épique qui se passe dans le bar. Donc, c'est-à-dire qu'il y a clairement des grosses bastons dans le bar. C'est quand même cool. Bon, là, s'il n'y a même pas la
est-ce
moindre
que j'ai,
baston...
Est-ce que j'ai dit qu'il y avait...
Ah, dans un
est-ce
bar tenu par une orque, tu...
Ah, il y a de la baston, ah, quand même.
C'est juste que ce n'est pas le thème principal. C'est... Voilà.
D'accord.
Mais disons que oui, quand une orque étrangère vient s'installer au milieu d'une pas très grande ville, mine de rien, bon, bah, y a des gens qui vont la regarder de travers et qui ne vont pas voir d'un très bon œil... le fait qu'elle installe son café, qu'on ne sait même pas ce que c'est, au milieu d'une artère un peu passante, quoi.
Bien, bien. Écoute, ça donnera peut-être, ça va peut-être faire naître un sous-genre nouveau, un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu le développement de, c'est les cosy polars, les polars un peu, tu sais, exactement. Ouais, cosy mystery.
Moi, j'adore ça, les cosy mysteries. Moi, je lis les bouquins de Graham Norton. Alors oui, non, c'est pas du tout de la fantasy.
Mais
c'est des cosy.
Voilà.
C'est des cosy mysteries qui se passent dans le comté de Cork en Irlande et à chaque fois, à la limite, le meurtre est moins intéressant que
l'ambiance,
que les personnages, l'ambiance, l'unité familiale qu'il peut y avoir, le petit village où tout le monde se connaît et où forcément, bah, t'as les rumeurs qui battent leur plein, etc. L'angoisse, quoi. Non, mais voilà. Effectivement, c'est dans ce genre, c'est tout à fait dans ce genre-là. Effectivement. De la cosy fantasy.
À voir comment ça prendra chez nous lors de sa prochaine traduction. On passe peut-être dans un autre registre à The Book Eaters de Sunny Edin.
Encore une fois, un coup de cœur absolu de cette année. Le truc, je m'y attendais pas. Je l'ai acheté sur Amazon parce qu'en gros, il coûtait 2,99€ et où je suis désespérée, donc moi, il me faut de la lecture. J'ai absolument adoré. C'est le titre dit ce que ça dit. On suit une histoire de gens qui mangent des livres. Voilà, donc c'est pas tout à fait des humains. Hein. C'est-à-dire qu'ils les mangent pas comme... Ils les dévorent pas comme moi je les dévore. Ça finit pas sur la bibliothèque après. Le garde-manger, c'est la bibliothèque. Voilà, c'est une race spéciale qui a un jeu de dents supplémentaire pour pouvoir bouffer les bouquins et vraiment s'en nourrir, quoi. Et c'est un bouquin qui arrive à mélanger une noirceur pas possible avec beaucoup d'humour, des personnages que j'ai beaucoup aimés, avec un vrai enjeu derrière, parce que l'idée, c'est quand même de sauver... la santé mentale d'un gamin. On va dire que la maman mangeuse de livres n'a pas fait un enfant tout à fait normal, dirons-nous, pour un mangeur de livres. Il est encore plus arbi. Donc, et tout l'enjeu, c'est de trouver le moyen de lui sauver la vie. Et il y a un tome 2 qui sort cette année, sachant que le tome 1 est une histoire tout à fait autonome, tout à fait indépendante. Je suis vraiment très curieuse de savoir ce que l'auteur va faire après. Et non, c'est...
Elle a eu un deuxième enfant, il faut
pas. Bah, j'espère pas. Ça s'appellerait un peu facile. Mais non, c'est. C'était ouais, vraiment très, très intéressant.
On a vu certains tomber dans la fatigue.
Oh, bah, oui, on en a vu plus d'hommes. Mais bon, voilà, en espérant que, bah, du coup, que ça tienne le niveau, quoi. Parce que c'était un sacré tour de force, j'ai trouvé. Voilà, tout l'univers.
On a une traduction.
Je crois pas qu'il y ait de traduction prévue. Pas en tout cas en 2023.
Bon. Là, je suis pas
mais,
au courant.
Mais je guette.
Bon, espérons que ça trouvera preneur. Donc, The Book Eaters de Sun Yi Din. On a fait un petit peu le tour de la VO. Moi, j'aurais voulu vous citer, mais ça, pour le coup, c'était si on a fini les romans.
Oui.
Donc, je voulais vous citer la parution d'un beau livre chez Bitmap Books qui s'appelle A Guide to Japanese Role-Playing Game, qui est un beau livre sur concrètement des RPG japonais. Si vous êtes fan de RPG japonais, si vous êtes amateur, allez jeter un œil, ne serait-ce qu'un œil, hein, à la page de ce livre sur Internet, sur le site de Bitmap. C'est un livre magnifique. Vraiment, ça reprend tous les RPG sortis depuis la création des RPG jusqu'à peut-être fin 2021. Alors, le bouquin est quand même sorti en 2022. Je crois qu'il est sorti. Bon, j'espère qu'il est sorti en 2022. Bref. Et
ça serait mieux.
Oui, ce serait mieux. Mais en tout cas, vraiment, moi, je vous le recommande. Il est. Moi, je l'ai en fin d'année et c'est. J'ai rarement vu un beau livre. Aussi soigné, aussi. Enfin, moi, je trouve vraiment fabuleux ce bouquin. C'est vraiment un compendium, hein, ça reprend vraiment les RPG. C'est pas des longues analyses de quelques jeux, c'est tous les jeux dans un livre, quoi. Donc, je voulais en parler parce que c'est un des ouvrages qui m'a beaucoup marqué cette année. Mais c'est un beau livre. Si vous êtes fan de RPG, juste allez regarder.
Sauf qu'après vérification, le bouquin est sorti en 2021. Donc,
il est sorti
voir
en 2021. Ah, c'est un coup de cœur et j'en parle quand
Désolé.
Même. Voilà, donc il est attention, ça fait pas partie du récap. On va dire que je suis hors sujet, mais voilà, et quand même jeter un œil dessus parce que le bouquin est quand même génial. Bref, on peut peut-être passer à la partie ciné-TV. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a aimé ? Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé ? Alors, on précise que on va renvoyer un petit peu au podcast numéro 90. Parce que on a beaucoup parlé donc avec Safron et avec Gilo de Rings of Power, bien entendu, de également House of the Dragon qu'on a beaucoup aimé,
de Sandman
également, donc trois séries qui ont fait 2022, qui dans des proportions qui sont pas les mêmes, forcément un peu plus controversées pour Rings of Power, avec un peu plus réussi peut-être pour House of the Dragon et Sandman. Voilà. On sait que Akalabes voudra un peu bitcher sur Rings of Power, bien entendu.
Ouais, je vais pas complètement pouvoir m'en empêcher. Moi, je vais faire très très court, parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses. Moi, ce que je reproche beaucoup à Rings of Power, c'est que je trouve en fait que le c'est peut-être le montage ou alors c'est le scénario vraiment d'un épisode, mais je trouve que c'est extrêmement décousu. Et en fait, c'est même vraiment la qualité cinématographique. Ensuite, on peut parler du scénario, on peut parler des images, on peut parler du jeu des acteurs, etc. Je pense que ça, vous en avez déjà parlé en long, en large et en travers. Mais je trouve que même la qualité cinématographique fait que j'avais du mal à suivre ce qui se passait. Pourquoi les Numénoréens arrivent et ils galopent dans le vide sans savoir où ils vont. On n'a pas de. Il y a beaucoup de fois où on ne comprend pas les actions des personnages avant de voir le dénouement de cette action. Et on ne comprend pas pourquoi ils ont pris ces actions-là comme ça. Alors, oui, on voit que, bon, bah, ils rentrent dans l'action, mais on ne sait pas comment ils sont rentrés dans cette action-là. Et ça, ça m'a beaucoup dérangé.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, je l'avais précisé dans le podcast. Moi, je l'ai vu avec madame, qui n'est pas forcément très, très amatrice de fantasy et qui était tout le temps perdue, pratiquement. Et même moi, qui avais un peu le rôle d'essayer de la guider un peu dans cet univers, moi aussi, j'osais pas dire que des fois, j'étais complètement du père. Enfin, j'étais perdu. Vraiment, je me disais... Elle me disait, mais c'est qui lui?
Bah, ouais.
Et je disais, bah lui, c'est... Et je cherchais, tu sais, et je trouvais pas. Lui, mais c'est la première fois qu'on le voit. Elle me fait, non, c'est pas la première fois, on l'a déjà vu. Mais
Je suis
d'accord avec toi, effectivement, il y a un problème dans l'enchaînement de scènes comment tout ça s'imbrique pour permettre en fait aux spectateurs de comprendre facilement les enjeux et qu'est-ce qu'on et comment le scénario se déroule, quoi, comment l'histoire se déroule. C'est vrai que c'est un vrai problème, et je pense que c'est un problème de encore d'expérience. Bref,
ouais, c'est ça.
Si vous vraiment, encore une fois, si vous voulez un avis plus prononcé, on en parle pendant une heure et demie dans le podcast 90, n'hésitez pas à aller y jeter un œil,
quiconque,
et une oreille
tout plutôt. À fait. Et juste pour dire que moi, par contre, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé House of the Dragon, en particulier pour ça, parce que je trouve que globalement, d'un point de vue cinématographique, c'est bien fait. Ils prennent le temps de poser les choses, de bien monter leur scénario, de poser leurs personnages, et ça marche vachement bien. Alors, c'est pas exempt de tout défaut, hein, clairement, mais on passe quand même un très bon moment. Comme ça faisait longtemps que j'avais pas passé en regardant Game of Thrones.
C'est presque aussi bon que la saison 8 de Game of Thrones.
Bah justement, c'est... Je dirais que c'est presque aussi bon que les
tu
premières
quand
saisons
tu
de Game of Thrones.
La série centrée sur Jon Snow.
Ouais, voilà. On en reparlera à ce moment-là.
Ça.
Ah bon, après, c'est ça. Je pense que quiconque a vu ne serait-ce que 5 minutes de The Witcher Blood Origin relativise beaucoup les anneaux de pouvoir.
Comme quoi, il est possible de faire pire. Hein.
Alors moi, je ne l'ai pas vu, et tous les avis catastrophiques sur le forum moi, me donnent envie de le voir, parce que je me dis, mais si les gens disent que c'est si nul... Tu vois, enfin, l'extrême nullité...
Bah moi, je veux dire que c'est génial.
Non, mais l'extrême nullité va avoir un côté... attirant au moins autant pour moi, chez moi que le l'inverse, quoi. Ouais, après je pense que je vais péter un câble au bout de 5 ou 10 minutes, mais...
Bon, après il y a que 6 épisodes, je crois.
4 ouais, même, il me semble. Donc
4 ouais. Épisodes et c'est
si je ne m'abuse, ouais, c'est
je peux aller plus loin que le premier.
D'accord.
Mais ouais, non c'est bon. Après, l'autre gros morceau de la fin d'année, c'était quand même Willow hein, sur Disney+.
Ouais, alors c'est vrai que déjà on va s'excuser auprès de nos chers auditeurs si vous avez suivi le podcast 90. Non, 91. 90 déjà, je pense qu'on en parlait de Willow, on disait que ça allait sûrement être la surprise. 91, on disait que oui, vous allez voir la série, franchement, elle va vous surprendre. Et
deux podcasts qu'on tease Willow.
Et ouais, ça fait plusieurs podcasts qu'on tease Willow.
C'est l'éléphant. Ouais, comment dire.
Ouais, comment dire. Ah, c'est l'éléphant qui accouche d'une sauterelle, là. Hein. Là, il y a. Malheureusement, j'ai voulu lui trouver des qualités. Et je pense que je lui en ai trouvé à cette série, au moins sur les deux premiers épisodes.
Bah, il y a Willow.
Ouais, alors, dans les deux premiers épisodes, il n'y a pas Willow. Et je trouvais que ça s'en sortait pas si mal que ça au niveau du lore, en fait. Parce que le lore de Willow, c'est pas non plus la folie. Hein. Il y a un film, et on l'avait cité, et deux romans. Mais j'ai trouvé que ça s'en sortait plutôt pas mal. C'était la proposition. En fait, moi, j'ai adhéré à la proposition, même visuellement. Même au niveau sonore, je trouvais que l'OST avait l'air de proposer quelque chose. Vraiment, je sentais qu'il y avait une espèce de passion qui s'était qui
rallumé.
Exactement, non, mais qui se transmettait, enfin qui tu sentais que les showrunners avaient quelque chose, quoi. Voulaient vraiment montrer quelque chose. En tout cas, pas traiter le sujet par-dessus la jambe. Le souci, c'est que ça commence à sentir vraiment pas bon à partir du moment où en fait les personnages partent en quête. Le problème, si vous n'avez pas vu la saga Willow, enfin la série, c'est que c'est beaucoup de personnages adolescents avec des atermoiements d'adolescents. Donc
des grands ados. Bah, quoi,
Et accessoirement, qui s'expriment aussi comme s'ils étaient dans un Starbucks à Los Angeles.
Oui.
Et moi, dans des trucs de fantasy, ça me dérange profondément, je vous cache pas. Ouais, moi, ça me dérange
vraiment. Ah ouais, non, mais ça commence avec ça. Puis bon, les atermoiements amoureux qui créent des espèces de quiproquos à partir de rien du tout, ça, c'est quand même casse-pied. Moi, j'avoue avoir quand même été assez déçu du jeu de Warwick Davis, de Willow, en fait.
Bah, il a pas grand, on lui donne pas beaucoup de matière, je trouve aussi.
Qui a oublié, il a non seulement il a zéro matière, mais en plus il a oublié comment on faisait l'acteur, en fait.
Un bon acteur. Vraiment, ça m'a surpris et j'étais vraiment gêné de le voir jouer. Je me disais genre, et en plus effectivement, comme tu dis, Saffron, on le fait un peu passer pour ridicule, alors que c'est pas ce qu'on pouvait attendre de Willow, mais à la limite, ça aurait pas été grave si ça avait été traité, bien traité. Là, il y a quand même, il est souvent ridicule, souvent dans des... Oui, Gilo ?
Non, mais moi je trouve qu'au contraire, pour une série qui s'appelle Willow, tu le vois quand même pas.
Ah non ?
Il a pas.
Non.
C'est pas un perso central, donc il a pas non plus. Comment dire ?
Ils ont utilisé Willow parce que c'était ce qui allait faire venir les nostalgiques et les gens qui connaissaient le film.
Mais du coup, en tant qu'acteur, il a pas beaucoup de matière, je trouve, pour montrer ses talents. Quoi. Disons que j'essaie de le défendre.
Si tu veux, il y a quand même des épisodes où c'est pas possible. Enfin, je veux dire. Et puis, il y a aussi des espèces d'enchaînements de scènes. Tu sais pas trop ce que ça fait là. Certains personnages vont tomber sur d'autres personnages au beau milieu d'une forêt. Il y a un épisode, il tombe sur deux nanas dans une forêt.
C'est le 3,
non ? Ouais, moi je me suis dit, à un moment, je me suis dit, mais en fait, le personnage délire et ces personnages n'existent pas. Ce qu'elle vient de rencontrer, t'as une des héroïnes qui rencontre deux nanas en forêt qui habitent là, visiblement. Bûcheronne et sa copine. Et je me suis vraiment dit, en fait, c'est un rêve ou c'est un délire, mais ça n'existe pas. Et en fait, si. J'ai trouvé la conclusion de ce truc est tout aussi débile que l'introduction. Et on a plusieurs épisodes comme ça. Je trouve que les seuls épisodes qui se rattrapent, c'est vraiment ceux qui cherchent à étendre un petit peu le lore, qui utilisent intelligemment ce qui a été fait dans le film, c'est-à-dire l'épisode qui se passe dans le château de Bavmorda. J'ai trouvé que vraiment déjà au niveau des décors, qui n'étaient pas en CG, qui étaient vraiment ouais, c'est ça, en vrai mur. En tout cas, moi, ça m'a plutôt plu. T'as quand même des scènes où ils font la fête, comme si c'était, tu l'as dit, Saffron, ils font la fête comme nous, on ferait la fête au 21e siècle.
Ouais.
Et puis t'as des jeans, et puis t'as. T'as des éléments qui n'ont rien à faire dans une série de fantasy de type médiéval, quoi. Rien du tout. Et effectivement, la manière dont tu parles, dont tu s'exprimes...
Non, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont un peu calqué, on va dire, un skin fantasy générique total sur un truc qu'ils avaient envie d'écrire, des atermoiements d'ados, quoi.
J'ai l'impression qu'il y a ce côté, on veut à tout prix plaire aux ados, vraiment... regardez, ça va vous plaire. On a mis tout ce qu'il y avait pour vous plaire, vous, la Gen Z. Et on a même l'appel du pied, là, de... À un moment, t'as un des personnages, il croise un personnage qui parle de sa fille et qui dit « Oh, c'est une bonne à rien, tout ce qu'elle veut, c'est être connue comme les jeunes de maintenant. »
Voilà.
Ouais, bah oui,
trop high fantasy, waouh.
sorti du truc, mais vraiment, mais je me suis dit, mais oh là là, le facepalm. Bref. Mais Gilo, tu voulais dire?
Oui, non, je lisais hier une interview de Jonathan Kasdan, donc le showrunner.
Ouais. Ouais, il
Et,
s'est passé dans.
et en fait, il disait, il était presque, il se demandait s'il n'avait pas raté justement la vague fantasy en arrivant après House of Dragon et The Rings of Power. Et il avait l'air presque déçu que la série ne finalement n'ait pas l'air d'avoir le même succès que les deux autres. Mais bon, enfin pour moi, c'est de toute façon beaucoup plus modeste
Oui, à tous les
à tous les
niveaux,
niveaux,
ça,
quoi. Enfin,
c'est plus modeste à tous les niveaux et c'est moins bon d'un point de vue qualitatif. C'est il n'y a pas
Bah, j'avoue que la nostalgie n'a pas fonctionné à plein sur
ah
moi.
non, non, mais moi non plus. Et
Pour le coup.
pourtant, il y avait quand même des arguments. Mais je veux dire, à chaque fois que j'essaye, que je réessaye un épisode, à chaque fois, ça me sort du truc. Je veux dire. Il rencontre des trolls, les trolls, tu vois les t'as l'impression de voir le déguisement avec la braguette à
Non,
l'arrière.
c'est...
Enfin,
Les costumes des trolls sont épouvantables. Enfin, c'est...
dégueu, ils sont vraiment ni fait ni à faire, quoi. Non mais
des trolls.
vraiment, puis qu'ils leur disent vous allez rester là toute la vie, machin. Enfin, oh, il y a ce côté, cette volonté de traitement moderne. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas vraiment su ce qu'était un traitement moderne. Ils se sont dit, ah ouais, on va mettre un peu de. On va faire Willow, mais à la sauce moderne.
C'est une caricature de
Bah c'est ça,
moderne.
c'est un skin quoi, c'est...
C'est Chat GPT qui a écrit
C'est
ça.
ChatGPT qui a écrit Willow.
Non, parce que je pense que ça aurait été meilleur
Ouais.
si ça avait été ChatGPT qui l'avait écrit, parce que
Non, c'est.
ça fait peur quoi, les dialogues, ils font
Ah ouais, les
peur.
dialogues sont pas bons. Enfin, le...
Pourtant, j'avoue que quand le thème de Willow a résonné au début, je me suis dit, ah, peut-être que,
Ouais.
mais
Alors
ça n'a pas
peut-être.
duré.
Ouais. Mais le thème de Willow, oui. Les musiques à la fin des génériques
Oui, non, ça
post-Willow.
aussi, c'est une très mauvaise idée.
Bah, ouais, c'est vrai.
Surtout que ça n'apporte rien, en fait, ça résonne même pas avec l'épisode en général,
Le souci, c'est que c'est
contrairement à ce
vraiment
qu'ils
des musiques
imaginent.
actuelles, en fait. C'est des remixes de musique contemporaine.
Ouais, bah, c'est un peu comme cette mode sur les bandes annonces où à chaque fois tu as droit à des versions, des
Oui.
reprises de morceaux classiques. Ça, c'est vraiment. Bon, accessoirement, c'est insupportable, même si ce n'est pas le sujet.
Ouais.
Mais voilà, en fait, ça m'a fait un peu penser à ça.
Ouais. Non, non, bah...
Et quelque part, la série, c'est un peu ça, c'est une reprise ratée d'un morceau original.
Et bah, tu l'as très bien dit, Gilo, merci.
Alors, je vous avoue, je suis assez content de
Ouais. Ouais. Une reprise ratée d'un
ma
morceau
réplique.
original. On retiendra ça de Willow, qui en tout cas bah, sera pas dans notre top 2022 et plutôt dans notre flop,
Non.
malheureusement. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour de la partie ciné-TV. Ben, on va passer à quelles sont nos attentes pour l'année à venir, pour l'année en cours plutôt, pour l'année 2023.
Parce que l'avenir...
Ah bah ouais, a déjà commencé, hein.
Oui, ça a
Pouh,
déjà commencé, effectivement. Qu'est-ce que tu attends, toi, Safran?
Eh bien, à ma grande surprise, les fameux projets secrets de Brandon Sanderson, qui ne me parlait pas plus que ça à la base quand il a commencé à en parler sur les réseaux sociaux pour son crowdfunding, etc. Mais en fait, j'ai vu la tête des éditions Collector, notamment des illustrations, et j'ai changé d'avis. Donc je pense que je vais me procurer ça. Et puis, bah, il faut dire que le titre du projet secret numéro 2, qui est The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England, pour moi, c'est juste le meilleur titre de tous les temps. Donc, je crois que sur les quatre, c'est celui que j'attends avec le plus d'impatience. Comme je le disais, bah, la suite de The Book Eaters, de Sunny Dean, qui a intérêt à tenir le niveau. Bon, on va dire le Incryptid et le Chronique de Sainte-Marie annuel, hein, ça c'est comme d'habitude. Sinon, à ma grande surprise aussi, il y a Red Side Story de Jasper Ford, qui est la suite de Shades of Grey, qui a été traduit en français, dont j'ai oublié le titre, je suis désolée. Et bah, accessoirement, ça doit faire 10 ans qu'on attend cette suite, donc ça sera pas du luxe.
La route du Haut-Safran, de Haut-Safran.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et oui, voilà, donc c'est un bouquin qui a été publié il y a quand même un bon moment. Donc j'attendais même plus une suite. Et là, quand j'ai vu ça apparaître, j'ai fait « Ok, d'accord. Il va peut-être falloir que je relise La route de Haut-Safran parce que ça fait quand même un moment... c'est plus très frais dans mon esprit. » Pareil, surprise absolue, il va y avoir une suite à Lovecraft Country qui s'appelle Destroyer Worlds. Et donc, bah, sachant que j'avais vraiment beaucoup aimé Lovecraft Country, bah, je vais me laisser tenter par ça. Et côté français, alors on a le nouveau Jaworski et le nouveau Jean-Laurent Del Socorro qui sortent tous les deux le 18 janvier. Donc ça, je les guette de pied ferme. Également Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, que moi j'avais absolument adoré son premier roman, à qui on avait quand même remis le prix Elbakine. Donc c'était de la très très bonne qualité, j'avais trouvé. Puis il y a une histoire de thé, hein, manifestement, comme le dit le titre. Donc moi, c'est vendu, ça y est, c'est bon. Et puis, je crois qu'il y a un certain bouquin qui doit sortir chez Argile, dont l'auteur peut peut-être se manifester, n'est-ce pas ?
Est-ce que l'auteur attend son propre livre ?
Oui, bah, j'avoue que j'attends qu'il soit en librairie, parce qu'au moins, c'est rien.
C'est fini, ça veut dire. On en parle plus.
Oui, oui, non, mais c'est vrai que cette année, je sors E-Mills chez Argile en juin, premier office de juin, première semaine de juin, qui aurait dû sortir l'an dernier. Et puis, notamment à cause de la traduction du Erickson, mais pas que, ça a été compliqué de tenir les délais. Donc, il a été repoussé une première fois en septembre, et puis septembre, c'était pas possible non plus. Donc, il arrive là en juin, je suis en train de terminer les corrections sous la direction de Justine Breton, qui dirige l'ouvrage. Merci beaucoup, Justine. Le roman, c'est de la fantasy historique entre... Alors ça, c'est l'éditeur qui le dit, hein, c'est pas moi. Donc, si vous avez des problèmes avec ça, il faudra se plaindre à Argile, entre Del Socorro et Kay. On suit Emils, qui donne son nom au roman, qui est donc l'épouse d'Hannibal Barca. Donc, Hannibal...
Hannibal aux éléphants, quoi.
Carthage, hein, avec les éléphants, voilà, c'est ça. Et ce qui est sympa, c'est que le personnage, même son historicité est douteuse. Donc, on ne sait même pas si elle a vraiment existé.
Donc, tu peux en faire ce que tu veux, c'est ça qui est génial.
C'est ça, puisque le seul historien qui la cite nommément et qui raconte un peu son histoire, c'est un historien romain qui était connu pour volontiers inventer des personnages si ça pouvait rendre son histoire plus romanesque. Voilà, donc niveau historien, c'est pas vraiment ce qu'on est censé faire. Et c'est vrai que ça offre beaucoup de liberté, mais en même temps, je peux pas me baser. Enfin, c'est pas comme quelqu'un qui écrit un roman sur Alexandre et qui va avoir toute sa vie détaillée pour, en gros, suivre des rails. Là, il a fallu quand même broder une histoire. Voilà, mais je suis très content de tourner enfin la page de ce roman cette année, même si pour l'instant, je supporte encore mes personnages ou de X relecture, donc c'est plutôt bon signe. Mais voilà, c'est vrai que c'est... moi aussi, je peux dire que moi-même, je l'attends. Parce que ça fait quand même...
Mais peut-être pas pour les mêmes raisons,
c'est
en fait.
Ça, voilà. Pas pour les mêmes raisons. C'est vrai que, au bout d'un moment, on aime bien changer de registre aussi. Hein. Voilà, et puis à titre de simple lecteur, entre guillemets, j'attends, on parlait de Noël justement. Il y a aussi François Baranger qui va faire son arrivée en fantasy et chez De Noël avec Sorcier d'Empire. Donc de la fantasy napoléonienne.
Ars Obscura.
Oui, pour le cycle. Alors, je sais pas si c'est des dragons comme dans Téméraire. Ça pour Geeks, fan numéro 1 de Téméraire, rappelons-le.
Non, mais c'est Napoléon avec de la magie noire. Enfin, c'est l'époque napoléonienne avec...
Après, j'ai pas lu le roman encore, mais voilà, ça m'intrigue en tout cas. Puis j'aime bien l'époque, donc forcément. Et aussi, j'ai lu Nouveau Millénaire, il y a Le Pays sans Lune de Simon Jiménez, qui doit arriver en avril, lui aussi. Donc, je n'ai pas lu la VO qui est sortie en août, mais a priori, il a plutôt bonne réputation et le style est censé être vraiment assez percutant et assez marquant. Après, on verra ce que ça donne en traduction. Mais du coup, voilà, j'ai pas beaucoup de titres. Parce que je vous avoue que notamment au second semestre 2022, déjà, mon rythme de lecture a beaucoup chuté. Je suis pas sûr qu'il remonte beaucoup en 2023. Donc voilà, mais j'ai quand même repéré ces deux titres. Pour citer aussi les attentes de Gilles Tanas, qui avait participé au podcast aussi au plan. Donc lui, pour citer un jeu vidéo, donc il attend la suite de Breath of the Wild, donc Zelda 1, 2.
Forcément, il y aura un jeu vidéo en 2023.
Qui va mettre à genoux la Switch, à mon avis. Mais ça, c'est autre chose. il attend aussi la traduction du dernier Dragonlance en VF. Et puis bien sûr, niveau événement cinématographique, Donjons et Dragons, le film, dont on espère qu'il sera même plus réussi que la version de l'an 2000. Mais bon, c'est en même temps, on part de très bas, donc ça leur laisse de la marge.
À mon avis, futur flop 2023.
Hein. Ah, qui sait. En tout cas, je crois que c'est au printemps qu'il est attendu. Donc,
Paris, voilà. Je pense que
c'était les attentes de Gilles Tanas.
Ouais. Je vais vous donner les miennes. Alors moi j'attends, je suis très curieux de La Cité de Diaphane de Anouk Fork à apparaître chez Argile, qui raconte l'histoire d'un archiviste qui se rend dans une ville qui a connu grandeur et chute. Donc moi ça m'a évoqué un peu Elantris, mais je pense qu'à mon avis le style doit avoir absolument rien à voir. De ce qu'on a raconté l'éditeur, c'est plus proche d'un Dark Souls dans le thème. Donc très très curieux de ce côté ambiance et tout, de ce côté ville, reste de ville dont il reste des amérantes qui lorgnent autour de la folie ou quoi. En tout cas, le résumé, moi, m'interpelle énormément. Donc, je suis très curieux de ça. Très curieux également du nouveau Del Socorro avec Morgan Pendragon. Je trouve que la couverture d'ailleurs chez Albin Michel Imaginaire est vraiment, vraiment chouette. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui, non, sinon, jeu vidéo, bien entendu, j'attends le Zelda, mais j'attends surtout Octopath Traveler 2. Mm. Pour moi, c'est le jeu que j'attends le plus, qui sort le 24 février et qui est. Je pense que je l'attends plus que Zelda encore. C'est vraiment tout ce qui est un peu pixel art, moi, me parle énormément. J'ai adoré le premier Octopath Traveler. J'ai dû passer 80 heures dessus, facile. Et je pense que le deuxième, à mon avis, risque de me prendre quand même aussi beaucoup de temps. Donc voilà, c'est mes principales attentes que j'ai cette année, que j'ai pour cette année. Et malheureusement, nous ne pourrons pas vous donner les attentes de Akalabes qui nous a quittés pendant le podcast.
Son micro nous a quittés.
il a malheureusement une panne de micro. Donc, alors ce n'est pas que...
Attendez, il m'a contacté, je crois qu'il attend Emils chez Gilles aussi.
Ah, ça tombe bien.
Donc je fais la commission. Hein,
Donc voilà, malheureusement, nous n'aurons pas les attentes d'Akalabes.
Pas toutes, en tout cas.
Pas toutes.
C'est triste.
Eh bien, on arrive à la fin de ce podcast. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous rappelle que si vous souhaitez contribuer à nous aider pour à produire ces émissions, à garder un peu la lumière allumée, voire à nous offrir un café, vous pouvez contribuer un don sur la plateforme Hello Asso, dont vous trouverez le lien sur la page d'accueil du site. Ça nous aide beaucoup ça nous aide également à nous sentir soutenus. Vous pouvez également nous apporter votre soutien tout simplement en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast, votre plateforme de podcast préférée, donc Apple Podcast, Spotify et j'en passe. Sur laquelle vous nous écoutez. C'est pareil, c'est très bon pour le référencement et ça nous aide à remonter un petit peu dans les affres de l'algorithme, des algorithmes. Merci tout le monde.
Bonne soirée à tous. Salut.
Ciao, ciao.
À la prochaine.
À moi, l'aventurière qui doit sauver le monde.